Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En fonction des cultures, en fonction des lieux de vie, les peuples et les individus honorent de manière différente leurs défunts quand survient la mort, mais aussi dans la période qui suit la perte, dans la célébration de la mémoire du disparu. Cette approche de la mort fait partie de notre identité, elle est constitutive de nos traditions. Et si le deuil est un sujet universel, il n'en demeure pas moins un sujet tabou dans certaines sociétés. Dans de nombreuses régions du monde, on parle peu ou pas de la mort, si bien que lorsque la perte survient, c'est pour certains une sidération, un choc, une épreuve dont les jours et les semaines qui passent ne parviennent pas à atténuer la douleur. Tristesse, repli, douleur physique, affaiblissement ou à l'inverse, émotion positive à l'évocation du disparu, reconnaissance. Les ressentis peuvent être de nature très différente dans cette situation si particulière. Y a-t-il une norme, voire même une normalité en la matière, en termes de durée, en termes de réaction, en termes de besoin d'évoquer le disparu ou à l'inverse, de se replier dans le silence? Comment aider un proche qui ne se relève pas d'un deuil? Y a-t-il des attitudes à éviter et à l'inverse, d'autres comportements qui peuvent soulager la peine? Posez-nous vos questions au 33 84 22 75 75. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de vous retrouver. Mamadou Mbodj, bonjour.
Bonjour, Madame Paré.
Vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Mamadou Mbodj, vous êtes psychologue, psychothérapeute à Dakar, au Sénégal. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Je viens d'évoquer à l'instant cette façon particulière en fonction des traditions, des régions du monde, hein, même d'honorer les défunts, des rites. Et puis, les réactions, l'impact différent après une disparition, même en termes d'émotion. Madame Mbodj, est-ce que le deuil, est-ce que ce deuil est un motif fréquent de consultation quand on est psy?
Oui. On est souvent consulté. J'ai pas envie de dire malheureusement, on est souvent consulté. Et c'est à tous les âges, quoique la personne la plus âgée que j'ai reçue, qui venait de perdre sa femme, sa compagne, avait 75 ans. Et la personne la plus jeune, accompagnée par un de ses parents pour lui annoncer le décès de l'autre parent, avait 5 ans, accompagnée de son frère qui avait 7 ans. Donc c'est à tous les âges, on en reçoit. Pas autant que pour les névroses ou pour les autres problèmes de la vie, mais on en reçoit parce que le deuil fait partie des épreuves de la vie. C'est une douloureuse épreuve, une épreuve difficile de perte d'un proche ou d'un être cher. C'est une épreuve qui est naturellement douloureuse parce que on est privé de la présence de l'autre, on est privé de l'amour de l'autre, on est privé de l'affection de l'autre. On est privé de son rire, de son sourire, comme me disait une patiente. Que vais-je faire maintenant avec cet océan d'amour, de tendresse et de désir que j'ai pour mon compagnon qui est parti? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et puis, comment supporter de ne plus pouvoir être aimé comme il m'a aimé?
Question directe, quand on a perdu quelqu'un et qu'on souffre, et puis peut-être aussi, Mamadou Mbodj, des personnes qui souffrent d'autre chose, de dépression, de tristesse, et puis au fil de la consultation, le nom du disparu apparaît. Sans que ce soit cité directement au premier abord.
Souvent, parce que la disparition a eu lieu bien des années auparavant, et que l'individu n'a pas fait le deuil, il n'en est peut-être pas conscient, et c'est au décours d'une consultation, au fur et à mesure que des entretiens qu'on remonte dans le passé, que effectivement apparaît la disparition brutale d'un parent, d'un proche, des années auparavant, disparition dont la personne n'avait jamais parlé, disparition dont elle a souffert en douce, mais qu'elle pensait avoir finalement surmonté, et c'est au décours d'une consultation pour tout à fait autre chose que, effectivement, le deuil non effectué réapparaît au grand jour, et souvent d'ailleurs à leur grande surprise.
Est-ce qu'on peut dire que certaines personnes sont mieux préparées à faire face à ce deuil ?
Pas les personnes elles-mêmes, mais tout dépend des ancrages que ces personnes ont dans leur vie quotidienne, tout dépend des réseaux de relations, tout dépend des rapports interpersonnels qu'ils ont avec la famille, qu'ils ont avec leur conjoint, qu'ils ont avec, oui, dans leur réseau de relations, et puis tout dépend aussi de leur personnalité propre, si vous voulez, d'accord ? Il n'y a pas de personnes mieux disposées que d'autres à résister, ou de personnes plus... Certes, des personnes sont plus vulnérables. Et puis tout dépend aussi des moments de la vie où survient la perte de l'autre. Est-ce que c'est des moments où on allait bien? Est-ce que c'est des moments où on n'allait pas bien? Donc il y a un ensemble de facteurs, si vous voulez, qui jouent et qui font la différence entre certaines personnes face au deuil.
Et même cette mort qui peut constituer une découverte d'émotions inédites, d'une douleur, d'un chagrin que l'on n'avait jamais ressenti jusque-là et qui fait mal dans le corps.
Absolument, qui fait mal dans le corps. Je veux dire que souvent les gens ont du mal à associer. Si vous voulez, la douleur est telle qu'ils ont du mal à associer les problèmes qu'ils ont physiquement parlant et la douleur psychologique, affective, émotionnelle, qu'ils ressentent. Parce que si vous voulez, le deuil, vivre le deuil, c'est un peu avoir à gérer émotionnellement, psychologiquement et sur le plan affectif, un ensemble de considérations, de représentations, de sentiments, qui étaient jusqu'à présent articulés ou reliés à la personne qui a disparu, et qui sont définitivement hypothéqués par la disparition de cette personne, disparition à laquelle on n'était pas préparé, disparition qui suscite énormément de questionnements auxquels on ne peut pas trouver de réponse. Et puis, on est désemparé. On est désemparé, et quand la tête ne peut plus, c'est connu, c'est le corps qui prend. Et quand le corps prend, il faut qu'on parvienne à faire l'association entre la douleur affective, psychologique, ce qui est arrivé, l'événement, le drame, et la souffrance physique qu'on a, et aller à ce moment-là consulter un spécialiste ou déjà aller voir le médecin généraliste.
Et puis, bien sûr, le rôle essentiel de la communauté face à ce deuil, comme on dit, dans cette épreuve, j'ai été bien entouré.
C'est essentiel. C'est essentiel que ce soit la famille, que ce soit le voisinage proche, que ce soit les réseaux de relations. Et je constate que le deuil, les funérailles et toute la cérémonialisation font partie des activités ou préoccupations de la vie quotidienne qui ont su résister à l'érosion du temps, qui ont su résister un peu au délitement des rapports sociaux, qui ont pu résister un peu à la déritualisation de la vie.
Et ces rites, ils sont essentiels pour ce passage ?
Absolument. Absolument, parce que la famille est là, il y a les funérailles, il y a une cérémonialisation. Alors, selon certaines ethnies, ça peut s'étaler sur des mois. Selon d'autres, c'est sur un an. Pour d'autres ethnies, c'est une histoire de 40 jours, par exemple, chez les musulmans. Parce que si vous voulez, les deux religions dominantes, si on prend le cas du Sénégal dont je peux parler, l'islam et le christianisme, au niveau de l'islam, il y a le premier jour, bien sûr, il y a le troisième jour, il y a la cérémonie du huitième jour, la cérémonie du quarantième jour, et ensuite celle, un an après, de l'anniversaire pour commémorer un peu la mémoire du défunt. Chez les chrétiens, c'est généralement, il y a la messe, il y a la prière sur la tombe, et ensuite... Il y a les condoléances, on se retrouve en famille avec le voisinage, et il y a une sorte d'accompagnement compassionnel qui est là, car l'individu endeuillé est tenu d'effectuer seul le deuil, mais il est rarement seul pour faire face à tout cela, parce qu'il y a l'environnement qui est là, tout de compassion, avec un esprit d'entraide, un accompagnement. Il y a même des familles ou des individus qui souvent sont tenus de recevoir la famille pendant presque des mois, si vous voulez. Où ils ne sont pas seuls, même s'ils reprennent leur vie quotidienne.
Seuls psychologiquement, mais pas seuls socialement.
Voilà, absolument.
Avec l'entourage qui est présent. Oui. On va tout de suite répondre et donner la parole, bien sûr, à nos auditeurs et auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Avec vos récits, vos témoignages aujourd'hui dans Priorité Santé, un premier appel du Congo, Congo-Brazza, Brazzaville, où l'on retrouve en ligne Franchely. Franchely, bonjour.
Bonjour docteur.
Mamadou Bodje est à votre écoute, allez-y.
Voilà, comme je me disais au commentaire, c'est à partir de l'âge de 10 ans que j'avais perdu ma maman biologique. Et lorsque j'ai atteint l'âge de 29 ans, c'est la grande sœur, celle qui avait pris le relais, qui me livrait après le décès de maman. Elle est décédée. Et c'était devenu pour moi un grand coup d'avoir ce genre de réalité en face de moi. Mmh. Difficile à supporter en tant que garçon. Vu que je l'aimais beaucoup, elle était proche de moi, j'étais aussi proche d'elle. Maintenant, ma question est celle de savoir quelle sera la mesure que je peux prendre pour s'en débarrasser de ces tours.
Ça veut dire que depuis trois ans, vous ne vous remettez pas de cette disparition. J'ai une question avant de donner la parole à Mamadou Mbodje, Franchely. Est-ce que vous étiez présent lors des funérailles de votre tante, on l'a compris, qui vous a élevé?
Oui, j'étais au funérail. Mais avant sa disparition, j'ai passé cinq ans qu'on ne se voyait pas, puisque j'avais obtenu le bac, je suis venu poursuivre les études à Brazzaville. Mmh. Elle était restée au nord du pays, après c'est un coup de fil qu'on m'appelle, que voilà, la grande sœur est décédée.
Et depuis, comment est-ce que vous ressentez justement cette perte? Ça vous empêche de faire certaines choses? Ça vous empêche d'aller de l'avant?
Ouais, parfois j'essaie un peu de me relever, d'aller de l'avant, mais du coup, quand je pense à elle, voilà, je suis complètement abattu.
Mamadou Mbodje, qu'est-ce que vous pouvez dire à Franchely? Qu'est-ce que vous pouvez lui demander?
D'abord, de ne pas s'inquiéter, que le deuil d'un proche rappelle toujours un autre deuil, si vous voulez. Ça demande du temps, parce que le deuil, il s'agit ici, comment je pourrais dire, de reformater, de revoir, de réaménager un ensemble d'émotions et d'affects qui étaient liés à la personne disparue, et dont on ne sait plus quoi faire après. D'accord? Ça demande du temps. Ça demande beaucoup de... Alors, évidemment, la religion est là, la famille est là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous avez pu rencontrer des personnes pour en parler? Que ce soit des personnes, des religieux, est-ce que vous avez pu rencontrer des éléments de la famille? Est-ce que vous évoquez la mémoire du défunt, des défunts? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'on vous autorise à en parler? Est-ce que vous vous autorisez à en parler en famille ou avec des amis, des proches? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en vous?
Il en parle avec des proches, il vient nous le dire.
Avec les proches, oui, on en parle souvent.
Alors, une chose... Il n'y a pas de temps pour le deuil. Pour certains, il peut être très long. Ce n'est pas encourageant peut-être pour vous. Comme pour d'autres, il peut être bref. Mais c'est faut savoir donner au deuil le temps dont il a besoin pour s'estomper progressivement. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de parvenir à surmonter la douleur, à la dépasser, à retrouver goût à la vie et à reprendre sa vie en main, tout en continuant de chérir la mémoire du défunt ou des défunts.
Compris. Mais pour la maman, vraiment, c'était facilement pour oublier tout ça. Mais la grande sœur, je n'arrive pas à comprendre.
Oui, parce que pour la maman, vous n'avez pas eu le temps. Vous étiez jeune, d'accord? Vous n'avez pas eu le temps, mais la douleur était là, la déchirure était en vous. Et j'ai le sentiment que quelle qu'ait pu être la relation, la qualité de la relation que vous aviez avec votre sœur, qui était une seconde maman, d'accord, la disparition de cette sœur ne pouvait qu'être violente en vous, parce qu'elle rappelait d'abord, vous perdiez cette sœur, vous perdiez la mère qu'elle représentait, mais ça ramenait sur le devant de la scène la disparition de la mère, disparition précoce de la mère, quand vous aviez 10 ans. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes un peu étonné de trouver que, bon, à l'âge de 10 ans, quand votre mère est décédée, vous n'avez pas trop souffert, mais que celle de votre sœur a pris des dimensions qui vous ont...
bouleversé complètement.
Voilà.
Retourné complètement.
D'accord?
Ouais.
Mais dites-vous, gardez l'espoir, d'accord? Continuez oui. votre vie, vos activités. Vous avez des enfants?
Non, je n'ai pas encore eu des enfants.
D'accord. Vous êtes marié?
Pas encore.
D'accord. Mais alors, en dehors des amis avec lesquels vous parlez, est-ce qu'il vous est arrivé d'aborder cette question en famille? D'évoquer souvent autour des repas la mémoire de la sœur, la mémoire de la mère. Est-ce qu'on vous parle de la mère?
Oui, avec les sœurs, oui.
Oui, vous avez des photos de la maman?
Les photos, malheureusement, avec la colère, j'étais obligé de déchirer, sinon ça serait... C'est un gros choc pour moi.
Ben, rien ne vous empêche d'en redemander.
Oh oui, je vais le faire.
Et éventuellement, est-ce que vous avez identifié sa tombe, l'endroit, repéré l'endroit?
Oui.
Vous y allez?
Oui.
D'accord. Et sur la tombe de votre sœur?
Oui.
N'hésitez pas d'accord. à y aller. Il ne s'agira pas d'élire domicile là-bas, mais si vous pouviez y aller le plus régulièrement... Et même leur parler, si vous avez envie.
Ne pas oublier, d'accord. mais passer du temps à l'inverse.
Voilà.
D'accord.
Bon courage.
Bon courage à vous, Franchly, à Brazzaville. On va retrouver tout de suite Mariam, qui est au Sénégal. Bonjour, Mariam.
Bonjour, docteur.
Mamadou Mbodj, je vous écoute. Allez-y.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé.
Bonjour, Mariam.
Merci de m'avoir donné la parole.
Allez-y.
Bon, comme je disais, il y a une année, j'ai perdu mon époux de la manière la plus atroce, par une mort violente. Un matin, il est parti au travail pour ne plus jamais revenir. Depuis lors, ma douleur est tellement intense et la solitude est pesante. Au début, l'entourage me disait la douleur va s'atténuer avec le temps. Mais j'ai l'impression que c'est le contraire qui se produit. Quand ça passe, ma douleur devient plus intense. Alors, je voudrais savoir comment dominer cette douleur et vivre avec.
D'accord.
D'autant plus qu'on a un enfant de 3 ans et demi qui était très proche de son papa. Donc, il ne cesse de lui réclamer. Je lui ai expliqué qu'il est parti au ciel. Il ne va plus jamais revenir. Mais l'enfant ne comprend pas. Il demande encore et encore. Lors des cérémonies, il demande. Tout le monde est là. Où est mon papa? À l'école, la même chose. Quand il récupère les enfants, il me demande pourquoi papa ne vient plus pas.
Cet enfant ne comprend pas ce qui s'est passé. Mariam, sur les circonstances de la mort de votre époux, sans vouloir aller remuer des choses trop douloureuses, sur les circonstances, est-ce que les choses sont claires pour vous ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre?
Il y a des zones d'ombre. Parce que rien n'est clair pour le moment, parce que l'enquête suit toujours son cours.
Parce que ça a été une mort violente? C'est une mort violente et les explications, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces explications?
Oui, effectivement.
Est-ce que vous pouvez nous dire pour que les auditeurs puissent savoir de quoi nous parlons ou c'est trop délicat?
C'est un peu délicat, mais bon, un matin il est parti au travail et il n'est plus jamais revenu. On m'a annoncé le lendemain matin qu'il a été retrouvé dans sa voiture. Mort par arme à feu.
Il y a eu une enquête, et cette enquête, les réponses qu'ont données cette enquête, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec elle?
Oui, il y a une enquête qui avait conclu au suicide, l'enquête préliminaire.
Alors, on comprend, hein, violence de ce décès. Vous aviez une famille qui était en pleine naissance, en plein devenir, et vous retrouvez un matin comme ça face à cette violence. Marianne Mamadou Botch, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que là, on est vraiment face à ce que la mort peut avoir de plus douloureux, de plus violent.
Absolument. Et c'est cette zone d'ombre, je pense, qui retarde le moment du deuil. Vous dites que chaque fois vous pensez que ça s'est estompé, mais ça revient avec plus de violence encore, parce qu'effectivement vous avez encore des interrogations sur les circonstances de la mort. Et je pense que la thèse qui vous a été fournie, qui est la thèse, je ne sais pas si elle est officielle ou pas, ne vous convainc pas. Je pense que vous vous posez encore des questions, et tant qu'il n'y aura pas une réponse satisfaisante, d'accord, apaisante sur les circonstances de la mort, le deuil sera difficile à effectuer.
Et c'est pour ça que difficile de donner des explications aux enfants quand on n'a soi-même pas les réponses.
Absolument. Il est difficile. Maintenant, pour l'enfant, tenez-vous-en à ce que vous lui avez dit, parce que s'il l'entend aussi, il a du mal à le comprendre. Arrangez-vous juste pour ne pas varier dans votre discours. Progressivement, cet enfant va intégrer la réalité de la situation, parce que le manque est là, d'accord ? Parce que le travail du deuil, vivre le deuil, est une expérience douloureuse, quotidienne, de gestion d'une perte, de gestion d'une absence, de gestion d'un manque et de gestion d'une souffrance. C'est tout ça à la fois, d'accord ? Donc, pour ce qui est de l'enfant, rassurez-vous, maintenez cette version, ne pas donner de détails, bien sûr, sur les circonstances du décès, d'accord, en vous disant que progressivement, il va l'intégrer, même s'il ne mérite pas que ça lui arrive de manière si précoce. Perdre son père à 3 ans, c'est effectivement un drame. Pour ce qui vous concerne maintenant, je pense que le travail de deuil consiste à apprendre à survivre, si vous voulez, à ceux qui nous ont quittés, pour pouvoir certes continuer à chérir leur mémoire, à parler d'eux, parlez-en aux enfants, reprenez progressivement pied dans la vie quotidienne, évitez si possible de se mettre en congé durable, à longue durée. Si vous aviez une activité professionnelle, il est préférable que vous la repreniez. Si vous avez consulté un médecin et qui ne vous a pas parlé d'épisodes dépressifs, déjà remerciez le ciel. Voir maintenant, éventuellement, si un médecin pourrait vous prescrire quelque chose qui puisse vous permettre de dormir si jamais vous connaissiez des périodes d'insomnie, ou quelque chose contre l'anxiété, parce que c'est douloureux, parce que les questionnements sont là, parce que la thèse où il a été assassiné, cette thèse est violente, où il s'est suicidé, cette...
Dans les deux cas, c'est
très violent. Dans les deux cas, c'est violent et c'est difficilement acceptable. D'accord ?
Oui.
Malheureusement, vous êtes tenu maintenant de vivre, ne serait-ce que pour pouvoir parler de lui à vos enfants.
Et Mariam, est-ce que vous arrivez encore à vous occuper des enfants, à trouver le goût dans le jeu, dans une sortie, au moment des repas ? Vous arrivez à retrouver le goût avec ces enfants ?
Oui, effectivement. C'est les enfants qui sont ma force. Je ne trouve que de goût à la vie quand je suis avec eux, quand je prends soin d'eux, quand je m'occupe d'eux.
Leur raconter aussi la personne qui était leur papa, le bonheur qu'elle vous a apporté, parce qu'il y a ça que vous gardez avec vous.
Oui, c'est ce que je fais avec 3 ans et demi. L'autre n'est qu'un bébé de 6 mois.
Vous leur montrez des photos?
Oui.
Oui. Montrez-leur des photos, si vous pouviez même leur mettre une photo du papa sur la table de chevet.
Oui, il y a deux photos du papa sur la table de chevet. Donc, à chaque fois que le plus grand revient de l'école, il discute, il parle à son papa.
Et ne jamais refuser, ne jamais interdire de parler du père, d'accord ? Chaque fois qu'ils poseront des questions, bien sûr, vos réponses seront invariables, d'accord ?
Oui.
Hein? Restez-en à cette réponse, n'entrez pas dans des détails. Et puis sachez aussi que toute cette période de deuil, les obsèques et tout ce qui a été fait sont un peu permettent aux êtres humains, aux survivants, aux vivants, à vous, à la famille, constitue ce lien, si vous voulez, qu'on a avec la mort, pour mieux restituer à la vie tout son sens. Parce que quand ça nous arrive, ben, la vie, on se dit, mais à quoi ça sert de vivre? Hein, il y en a même qui s'interrogent, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel drame? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est des questions qu'on entend souvent. Des gens croyants qui commencent à douter, hein, de leur foi. Donc, tout ça, toute cette situation, toute cette difficulté est censée vous mener progressivement à rebondir, retrouver goût à la vie pour mieux continuer à vous occuper de vos enfants et mieux continuer à leur parler du Père.
Mamadou Mbodj, c'est une force et une faiblesse en même temps quand on doit continuer de s'occuper de personnes alors que soi-même on est dans une immense souffrance.
Absolument.
En même temps, ça nous porte à cicatriser, mais en même temps, des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas se retrouver face à sa peine. Est-ce qu'on la vit pleinement pour autant?
Oui, on la vit pleinement, mais ce qui atténue, sans l'écarter totalement, ce qui atténue cette peine, c'est aussi cette capacité qu'elle a de s'oublier à un moment donné pour s'occuper des autres.
De continuer avec eux.
Absolument.
Continuer vers l'avenir. Merci infiniment à Mariam pour votre témoignage. Beaucoup de courage. Merci beaucoup à vous. On va partir pour la Guinée, pour Conakry, rejoindre Mamadi. Nouveau témoignage dans Priorité Santé. Mamadi, on vous donne la parole. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Effectivement, j'ai perdu ma maman le 24 juin 2014. Elle est décédée d'une crise cardiaque, du moins ce qui m'a été rapporté par la famille. Mais la nouvelle a été brutale parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et j'ai eu un choc terrible. Donc au début, je ne ressentais pas d'émotion parce que toute la question qui me traversait l'esprit, c'était de savoir comment est-elle décédée. Et bien, au fil du temps, j'ai commencé à réaliser qu'elle est vraiment décédée. Et voilà, il s'en est suivi une période très très difficile. J'ai commencé à m'isoler, à pleurer de plus en plus. Et depuis lors, les souvenirs ne me quittent plus. Il suffit seulement d'un événement pour que je ressens à nouveau assez d'émotions, des paroles, tout ceci. Bon, je voudrais poser la question au docteur, pourquoi les souvenirs-là ne me quittent plus aujourd'hui?
Juste avant de passer la parole à Mamadou Mbodj, Mamadi, j'ai une question. Quand ça s'est passé, vous étiez auprès de votre mère, vous étiez près du domicile familial ou vous étiez éloigné à ce moment-là?
Non, j'étais à Conakry et le décès s'est passé au village, donc je n'étais pas à côté.
Et vous avez pu assister quand même aux funérailles?
Non, je n'ai pas vu le corps.
Vous n'avez pas vu le corps de votre maman. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, qui vous pose problème aujourd'hui?
Beaucoup même, c'est la plus terrible chose qui m'est arrivée dans ma vie. Je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse enterrer ma maman à mon absence.
Est-ce que des fois, aujourd'hui encore, vous avez l'impression finalement qu'elle n'est pas vraiment morte?
Oui, au début, c'était cela. Au début, je disais qu'on me cachait quelque chose. Mais bon, au fil du temps, avec les conseils, je m'habitue finalement. Et aujourd'hui, j'accepte l'hypothèse du décès.
Alors, vous acceptez ce décès, mais vous êtes toujours triste. Mamadou Mbodj, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mamadi sur cette douleur?
Oui. Est-ce que vous avez pu localiser sa tombe?
Oui, j'ai été, ils m'ont montré la tombe.
Oui.
Oui, avec les gens. Donc, depuis que j'ai vu la tombe, donc les souvenirs ne me quittent plus. Et j'ai des douleurs à chaque fois. Mmh. Et il suffit d'un événement seulement pour moi d'avoir quelque chose.
En même temps, tout ce que vous dites me rassure, même si c'est douloureux pour vous, parce que j'ai le sentiment que le travail de deuil a véritablement commencé. D'accord?
Bien,
ces souvenirs qui vous hantent, qui vous gênent, en même temps, ce sont ces souvenirs, si vous voulez, qui vous maintiennent en vie quelque part, qui vous permettent de continuer vos activités, de penser à la défendre, de continuer de la chérir sa mémoire. Je pense que la douleur du deuil est inévitable. Qu'est-ce qui peut maintenant l'amoindrir, l'amortir? Vous le dites, la famille, vous êtes entouré, vous en parlez. Est-ce que vous avez pu exprimer à la famille ce reproche, hein, que beaucoup de gens expriment souvent, la rapidité avec laquelle on inhume les gens, même si c'est une recommandation de l'islam? D'accord? Est-ce que vous avez pu en parler avec la famille?
Oui, j'en ai en parlé avec les gens qui ont géré le corps.
Et l'explication vous a convaincu?
Bon, pas tout, parce qu'elle n'était pas malade, du tout, elle n'était pas malade.
Donc,
elle est décédée seulement d'une crise cardiaque, donc ça a été extrêmement rapide.
Mais vous êtes persuadé que la cause de la mort, c'est la crise, ou vous avez l'impression que c'est une explication qu'on vous a donnée pour mieux vous cacher les véritables raisons de sa mort?
Voilà, c'est ce qui m'a été dit, parce que la nuit, on en a parlé, et le matin, on m'a dit qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. Donc,
oui.
C'était tout ce qui ne passait pas.
On vous dit ça et puis on l'inhume avant votre arrivée.
Voilà, avant que je n'arrive, elle a été déjà inhumée.
Alors, à côté de votre souffrance, de la douleur dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questionnements clairs en vous? Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser à la famille?
Oui, parce qu'aujourd'hui, si je ne comprends pas la cause exacte du décès, deux fois je me pose la question.
Ça veut dire donc que la thèse de la crise cardiaque ne vous convainc pas?
Cela ne me convient pas. J'accepte, mais ça ne me convient pas.
Est-ce qu'il y a un médecin, est-ce que le décès a été constaté par un médecin, comme ça doit se faire? Ou pas? Ou est-ce que l'environnement...
Cela ne m'a pas été rapporté.
Ce serait bien que vous puissiez vous renseigner. D'accord?
Okay, pas de...
Voir individuellement les personnes qui ont assisté à ça. D'accord? Les premières personnes qui étaient autour d'elle au moment du décès. Et les interroger calmement. D'accord? Et leur expliquer que cette interrogation n'est pas pour remettre en question tout ce qui a été fait ou dit, mais que vous avez besoin juste de qu'on vous parle des circonstances du décès et que ça vous aiderait, d'accord? Ça vous aidera à peut-être surmonter finalement la douleur qui vous anime actuellement.
Pour un petit peu répondre à toute cette sortir de la zone d'ombre.
Absolument,
justement.
Sortir de la zone d'ombre.
Merci beaucoup Mamadi pour votre témoignage. Très bonne journée à Conakry. On va partir pour le Bénin, pour Calavi, où l'on retrouve Christa. Bonjour Christa.
Bonjour priorité santé.
On vous écoute Christa, allez-y.
Bonjour, aujourd'hui, bon, j'ai eu un grand coup de deuil. Ça fait 6 ans que j'ai perdu mon petit frère. Et ça a vraiment chamboulé ma vie. C'est comme si une partie de moi était partie. Et je n'arrive pas à chaque fois que je veux l'oublier, je n'y arrive pas. Je fais tout, je n'y arrive pas. Et il y a des fois même, je dis y être avec lui. Je préfère des fois laisser le monde dans lequel je suis pour me retrouver dans le monde dans lequel il est. Et ça a été un choc pour moi que je n'ai pas aussi pardonné à mes parents.
Qu'est-ce que vous leur reprochez, Christa? Qu'est-ce que vous leur reprochez, vos parents, dans cette disparition de votre petit frère?
Ok, il était anémie et ils avaient besoin du sang. Et normalement, j'étais capable de lui donner mon sang, mais on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas averti. Et on est allé chercher le sang ailleurs. Et jusqu'à l'heure arrivée, voilà, il a fait comme ça. Il était parti. Et je leur reproche de ne pas m'avertir qu'il avait eu besoin du sang. Si j'étais là, j'allais déjà le faire à leur place.
Même si vous n'êtes pas certaine, Christa, qu'en donnant votre propre sang, ça aurait pu sauver votre petit frère. Ça, vous ne le savez pas.
Oui.
Oui.
Alors aujourd'hui vous aviez 19 ans, aujourd'hui vous avez 25 ans. Comment est votre vie? Vous êtes entouré? Qu'est-ce que vous faites?
Je suis entourée, mais je suis entourée physiquement, mais moralement, psychologiquement, je ne suis pas entourée. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider à me remonter de cette situation-là. Oui. Parce que jusqu'à présent, je sens la tête comme si c'était ça datait d'aujourd'hui.
Mamadou Mbodj, tout à l'heure on a entendu les mots de Christa qui dit que des fois elle préférait être du côté de son petit frère, donc du côté de la mort, que dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Ben, c'est que ça, votre propre mort ne le ramènerait pas, d'accord, ne le ramènerait pas en vie. Je pense qu'il a plutôt besoin en ce moment, de là où il est, peut-être qu'il veille sur vous, mais qu'il a besoin aussi que là où vous êtes, vous continuez à chérir sa mémoire, en sachant maintenant que on ne peut pas empêcher la mort. Il y a des moments où on peut la retarder, il y a des moments où le médecin peut agir sur la maladie pour empêcher la mort ou la retarder, ou en tout cas guérir la maladie. Mais si on avait les moyens d'empêcher la mort, cette vie ne serait pas supportable.
On me dit en régie que la ligne a été perdue avec le Bénin, donc on n'a plus Christa en ligne.
Oui.
Donc ces conseils, on essaye de la rappeler bien sûr, sur cette maladie qui a touché son petit frère. Et puis on retrouve toujours la même chose, la douleur amplifiée face au manque d'informations, au manque de clarté. En fait, cette zone d'ombre, c'est comme si elle maintenait le défunt dans une zone qui ne permet pas justement de passer à autre chose.
Absolument. Elle maintient les survivants, la famille, hein, elle les emprisonne quelque part, les empêche de pouvoir commencer à faire le travail de deuil, c'est-à-dire de dépassement de la souffrance. Alors, cette zone d'ombre, souvent, n'est pas volontaire, mais on a encore des images erronées, une représentation erronée des enfants. Et concernant la mort, par le silence, pensant donc épargner certaines personnes, leur épargner la douleur, leur rendre la douleur moins intense en ne les informant pas au moment où la mort survient, en ne donnant pratiquement pas de détails sur les circonstances de la mort et en ne parlant pratiquement pas, en dehors des jours des obsèques, de la défunte. Pensant régler, faciliter les choses.
La personne disparaît au sens propre.
Voilà. Et malheureusement, cette disparition-là et cette omerta n'aident pas du tout le travail de deuil.
Christa, est-ce qu'on vous a donné cette explication? On vient de vous retrouver. Est-ce qu'on vous a donné cette explication, qu'on avait voulu vous épargner, justement, épargner de la tristesse, épargner du dérangement?
Non, j'ai subi. J'ai été à l'obsèque, j'ai été à tout. On ne m'a pas donné aucune explication.
Je pense que vos parents ne vous ont pas tué ça par désintérêt ou par manque de considération ou pour vous cacher quoi que ce soit. Je pense que c'était pour vous protéger, sachant la qualité du lien, la force du lien qu'il y avait entre vous et votre frère. Je pense qu'ils ont voulu vous protéger. D'accord? C'est ce qu'il faudrait retenir. Et puis, rien ne prouve non plus, comme l'a dit Madame Paré, qu'en donnant votre sang, vous auriez pu sauver votre frère. D'accord?
D'accord.
Voilà, Christa, on vous souhaite une bonne journée à Calavi, au Bénin. On va prendre une dernière auditrice. C'est Fatoumata qui est en ligne du Mali. Bonjour, Fatoumata.
Bonjour.
On vous écoute, Fatoumata.
Moi, mon problème est que je vivais avec un petit ami. Du coup, et qui est tombé malade, qui a rendu l'âme. Et je me sens triste. Ça fait plus de 3 ans maintenant, mais j'ai toujours cette sensation. Je ne suis pas heureuse. J'arrive pas à lutter. Je ne sais pas comment faire pour.
Allô, Fatoumata?
Oui.
Oui. Cette disparition, donc, qui était donc votre compagnon, et vous n'arrivez pas à passer par-dessus. Vous étiez présente dans les au revoir, dans la cérémonie après sa disparition?
Oui, j'étais présente, mais bon, au moment où il était malade, je ne sais pas. Bon, puisqu'il était allé faire soigner, donc du coup, et ça a beaucoup juste moi. J'arrive plus à me concentrer sur d'autres prestations. J'ai cette sensation là. Qui fait que tous les temps, je me sens triste.
Mamadou Mbodj.
Est-ce que vous en parlez autour de vous, dans la famille?
Non.
Non. Est-ce que vous êtes entouré? Vous en parlez avec des amis?
Oui, avec une amie. Puisque oui. Bon, je ne suis pas habituée à confier à des...
Ben, c'est peut-être le moment. Hein, c'est peut-être le moment. Profiter de ce drame, hein, de ce malheur, pour vous ouvrir un peu. Commencez à en parler en famille. Commencez à en parler autour de vous. Et si, par, pour des raisons personnelles, vous ne pouvez pas, essayez de prendre le contact d'un thérapeute avec qui pouvoir en parler.
D'accord.
D'accord. Ça aide de mettre des mots. Hein, ces mots... Pardon ?
Qu'est-ce qui fait que je me sens toujours triste, que j'ai quelque chose...
C'est normal, madame. C'est normal. Parce que le deuil va avec son cortège de tristesse et de souffrance. D'accord ? Le deuil va avec son cortège de tristesse et de souffrance. Sinon, on ne serait pas des êtres humains, mais des machines. On n'est pas des machines, on est des humains.
Surtout quand on a un projet qui est coupé en plein vol.
Absolument, ce projet est coupé en plein vol, mais vous n'allez pas vous laisser mourir, je veux dire. Il faut rebondir. Il faudra rebondir. La douleur, vous ne pouvez pas la nier, vous ne pouvez pas l'ignorer. Elle est là. Donnez-lui le temps. Et ce qui va l'aider maintenant, ce qui va vous aider à l'atténuer, l'amortir, c'est peut-être en allant en parler, hein, en allant voir un thérapeute. Ça pourra vous aider.
Fatoumata, merci beaucoup de votre appel, Mamadou Mbodj. Ce qu'on a compris, en tout cas, au travers de cette émission, avec des témoignages poignants, difficiles, c'est que le silence, ça ne va pas bien avec le deuil.
Pas du tout.
Et pourtant, c'est quelque chose qui est largement relayé, cet espace d'image de recueillement, de repli sur soi au moment du deuil. Et vous, ce que vous nous dites, eh bien, c'est au contraire parler, communiquer, se souvenir.
Absolument. Parler, communiquer, se souvenir. Parler du défunt, mettre des mots sur ces mots, sur ça, c'est ce qu'on ressent, sur ses émois, sur ses sentiments, sur sa tristesse, sur son désarroi. Mettre des mots, en parler, parce que c'est aussi une des conditions pour vivre, pour survivre, parce que aucune mort ne serait justifiée qu'on mette fin à notre vie. Et pour continuer de vivre, il faut qu'on mette des mots.
Et célébrer la mémoire des disparus.
Absolument.
Merci beaucoup, Mamadou Mbodj, pour toutes ces réponses aux auditeurs de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Alimentation, nutrition dans Priorité Santé. On en parle tout de suite avec vous, Stéphane Besançon. Bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Nutrition et aujourd'hui, boissons, hein, puisque on va parler des boissons énergisantes. Est-ce qu'elles ont des risques? Est-ce qu'elles comportent des risques pour la santé? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle d'abord ces fameuses energy drinks? C'est ça en anglais dans le texte, boissons énergisantes?
Ouais, alors energy drink, c'est vraiment leur nom qui est le plus courant, et en français, c'est les boissons énergisantes. Alors, en quelques années, c'est un produit qui a fait un bond sur le marché colossal, hein, puisqu'en France, par exemple, il y a déjà 20 millions de litres vendus par an, donc c'est pas du tout une anecdote. Elles sont consommées en plus majoritairement par les adolescents et les jeunes adultes, et en fait, ce sont des sodas qui ont été enrichis en différentes substances par l'industrie. Alors, elles contiennent une grande quantité de sucre, une grande quantité de caféine, de la taurine qui est un acide aminé, du glucuronolactone, quelques vitamines du groupe B, de la vitamine C, des extraits de plantes comme le ginseng et le guarana. C'est important de parler du ginseng et le guarana parce qu'en fait, ces deux extraits de plantes redonnent encore de la caféine dans un produit qui est déjà très très riche en caféine. Alors pour idée pour nos auditeurs, hein, suivant la taille des canettes, c'est 1 à 3 tasses de café dans une canette, donc c'est vraiment très 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 dosé en caféine. Il faut aussi savoir que ces produits sont très sucrés, qu'en général sont plus sucrés que la plupart des sodas qu'on combat en disant c'est trop sucré. Alors elles sont vendues dans les pays du Nord, hein, on rappelle depuis les années 90, et on oublie souvent qu'elles ont fait aussi une percée sur le marché africain ou asiatique très très fort depuis maintenant quelques années, où elles sont très très présentes. Et par exemple en Afrique, elles ont aussi cette image qui leur colle à la peau qu'elles sont très très bonnes pour toutes les pratiques vigoureuses, donc le sport, l'activité physique, que ça aide à être en pleine forme.
Et même des fois on en trouve dans des distributeurs automatiques, hein, dans des salles de sport. Alors justement, est-ce qu'il y a un quelconque bénéfice par exemple, Stéphane, avant de faire du sport?
Alors non, et justement, j'insiste sur ce point-là, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en exergue, c'est tout à fait le contraire, hein, puisque c'est très risqué pour la santé. Elles contiennent, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de caféine, elles vont avoir, juste du coup, un peu avec leur composition, un risque de déshydratation et d'augmentation du risque cardiaque, ce qui peut, du coup, quand on fait du sport, notamment intensif, entraîner des accidents cardiaques. Il est donc formellement déconseillé d'associer la consommation de ces boissons avec la pratique sportive, notamment intense.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres risques pour la santé?
Ah oui, il y en a pas mal. Et puis ça c'est documenté de plus en plus. En premier lieu, le truc tout simple, hein, classique, elles contiennent une grande quantité de sucre, donc risque de surpoids et d'obésité si on en consomme trop, et du coup, diabète, maladie cardiovasculaire, ça, j'allais dire, on est un peu comme sur les autres sodas. Maintenant, la très grande quantité de caféine amène d'autres problèmes. Ça va être des troubles du sommeil, de la nervosité, qui peuvent être associés aussi à des troubles cardiaques. Et alors, des études plus récentes augmentent le spectre, c'est de moins en moins drôle, montrer que des adolescents qui consommaient une grande quantité de boissons énergisantes présentaient plus de problèmes de santé mentale, notamment de dépression. Et ça, c'est quelque chose qui est documenté de plus en plus. Et enfin, le dernier point que les experts commencent à alerter de plus en plus, c'est que cette très forte consommation de café qui est souvent, alors ces boissons sont souvent consommées aussi pendant les soirées, a tendance à masquer l'effet de l'alcool et que les gens consomment beaucoup plus d'alcool et à avoir des stades d'ivresse plus importants, sachant qu'une partie de ces boissons, faut bien vérifier sur les canettes, contient elle-même de l'alcool déjà, donc il peut être une surdose d'alcool complémentaire, donc attention à la composition et attention à la consommation.
D'autant plus que certains confectionnent des cocktails, hein, avec ces produits. Alors, quelles sont les réglementations qui régissent la vente et la consommation de ces boissons?
Alors là, c'est quand même c'est tout et n'importe quoi, j'allais dire. Donc en France, par exemple, quand elles sont arrivées sur le marché en 96, elles ont été interdites directement. Il a fallu attendre 2008 pour qu'elles soient autorisées, et maintenant il n'y a plus qu'une petite mention dessus, teneur élevée en caféine, déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes. Au Canada, elles ont été introduites sur le marché comme produits de santé naturelle, c'est-à-dire aucune réglementation, avant qu'avec toutes les études dont on vient de parler, en 2011, elles ont été requalifiées d'aliments, ce qui oblige maintenant à mettre leur composition complète sur les canettes et sur les packages. Et il y a des pays qui commencent à s'inquiéter encore plus. Au Royaume-Uni, par exemple, en Angleterre, l'année dernière, ça a fait les grands titres de la presse. Le Royaume-Uni a décidé, dans son grand plan de prévention santé, notamment touchant la jeunesse, de les interdire aux mineurs.
Alors, quelles sont vos recommandations, Stéphane, pour consommer correctement ce type de produit?
Alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire, il faut limiter au maximum la consommation pour les adultes en bonne santé, on va dire à peu près une canette par jour, grand maximum. Par contre, ces boissons, aujourd'hui, ça fait quand même les recommandations, tout le monde est à peu près unanime là-dessus, il faut éviter pendant la pratique du sport, ce qu'on a déjà dit, chez la femme enceinte ou allaitante, chez l'enfant et l'adolescent, et chez toutes les personnes qui présentent des troubles cardiaques, psychiatriques ou neurologiques, puisqu'on a vu que ça allait accentuer ces troubles. Et alors, la recommandation chez la femme enceinte, elle est renforcée, parce qu'aujourd'hui, cette boisson contient un acide aminé qui est la taurine, et personne n'est capable de savoir exactement s'il y a un effet ou pas sur le fœtus, donc principe de précaution, éviter absolument chez la femme enceinte. Des études sont en cours, je pense qu'on aura des résultats qui vont arriver dans les prochaines années, mais en attendant, principe de précaution, donc sur ces boissons, attention, attention, attention.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Priorité Santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Assetou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, comme jusqu'à la fin du mois d'août, nous poursuivons notre cycle de rediffusion. Vous pourrez réentendre l'émission que nous avions consacrée à la pneumonie. À demain, d'ici là, restez à l'écoute de RFI. Et surtout, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et pensez au masque dans les lieux fermés et en cas de forte affluence.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.